C'est le moment de la prédication et avant de lire
plein de textes,
on va prier. Merci Seigneur pour les 70 ans de Babette et leurs 50 ans de mariage qui approchent. Merci pour aussi toutes les autres têtes blanches que tu as données à ton Église pour nous transmettre aussi la sagesse et l'expérience de la marche avec toi. Que Seigneur... Nous soyons une communauté de transmission. Nous soyons une communauté aussi humble dans l'écoute des autres et prompte à apprendre de tous. Et que Seigneur, tous trouvent leur place dans ton peuple. Et quand ce matin nous allons écouter ta parole, ton esprit nous guide vers justement cette vie de communion. Amen. Ce matin, je vais vous lire plusieurs morceaux de livres de la Bible. Un tout petit bout de Genèse, un petit bout de Psaume, un petit bout d'Ecclésiaste, un petit bout du prophète Jérémie. Bon, quelques paroles de Jésus, parce que quand même, c'est lui le plus important. Et tous ces textes auront un thème commun que vous allez reconnaître facilement, c'est le repos. Et oui, parce que nous rentrons dans la période des grandes vacances. Et je trouve intéressant pour nous de réfléchir à l'idée du repos. J'en ai déjà partagé un extrait avec les dames de la ruche vendredi quand je suis passé les voir. Se reposer. On pourrait donner plusieurs définitions au repos. On pourrait dire que le repos, c'est l'inverse du travail, c'est cesser le travail. On pourrait penser que le repos, c'est reprendre des forces pour le travail. Donc on pourrait voir le repos comme quelque chose qui vient après le travail, pour le clore et le récompenser presque. Ou quelque chose qui vient avant le travail, pour le préparer et le rendre possible. Et puis dans les Écritures, on trouve aussi cette idée de repos, quelque chose sur quoi on s'appuie, sur quoi on se repose, et qui vient nous porter dans tous les moments de la vie. On va voir à travers un peu divers textes bibliques comment est-ce que le Seigneur nous conduit, nous appelle à vivre le repos. Et pour ouvrir ce sujet, je veux poser ou reposer en chacun de vous une vérité fondamentale, c'est-à-dire une vérité sur laquelle toutes les autres reposent. C'est que Dieu a inventé et que Dieu a voulu et que Dieu a donné lui-même le repos aux êtres humains. Le premier texte qu'on lit, vous le devinez, c'est la fin du récit de la création dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, deux petits versets, les versets 2 et 3, où il est écrit. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout le travail qu'il avait accompli. Il fit ce septième jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposait de tout son travail de créateur. Le repos est donc une bonne chose créée par Dieu pour l'humanité. Lui-même s'est reposé le septième jour de la création, alors qu'il n'avait pas transpiré une goutte de sueur, vous vous en doutez bien. Il n'en avait pas besoin, mais il voulait laisser un exemple à suivre. Et aussi, un interdit. Un interdit à quiconque de dire « Oh, moi j'ai pas besoin de repos. » Ou pire encore, « Tu n'en as pas besoin. Tu peux continuer de travailler. » Personne ne peut plus prétendre se passer de repos puisque Dieu lui-même ne s'en est pas passé. Et un humain qui ne peut pas se reposer, un humain à qui on interdit de se reposer, un humain dont le sens de la vie ne tourne autour que d'une chose, c'est le travail, ça a un nom, ça s'appelle un esclave. Et donc un humain à qui on refuse tout repos, tout sabbat, c'est un esclave et Dieu, en se reposant, le premier, interdit à quiconque d'être privé de repos. Merci Seigneur. Pourtant, il existe dans notre monde une véritable guerre autour du repos. Une guerre dans laquelle il a fallu se battre, même politiquement, socialement, pour obtenir le droit au repos. Saviez-vous qu'il faut attendre 1936 pour obtenir 15 jours de congés payés par an? 15. On travaille 52 semaines et on a 2 semaines. Ouf, on peut ne pas travailler. Avant cela, et grâce à l'Église qui a propagé la foi chrétienne en Europe, les jours fériés, en plus du repos dominical, étaient les seules sources de jours de repos pour le peuple. Aujourd'hui encore, la loi prévoit que le dimanche est un jour où on ne travaille pas. Et Dieu sait combien de forces sont à l'œuvre, économiquement, politiquement, socialement, philosophiquement, pour faire travailler toujours plus l'être humain. Considérons comme les commerces parviennent de plus en plus à obtenir des dérogations pour être ouverts le dimanche et les jours fériés. Et osons le dire, on trouve ça pratique. Déjà, nous pouvions lire dans les prophètes que certains commerçants détestaient le sabbat. Que certains vendeurs, à l'époque d'Israël, détestaient ces fêtes solennelles, ces nouvelles lunes, qui étaient fériées à l'époque. Et ils râlaient en souhaitant pouvoir de nouveau faire du business, exploiter les plus pauvres du pays. Vous pouvez lire cela dans le prophète Amos. Il y a une tendance sur notre planète à asservir l'être humain au travail. Le repos est une marque de liberté dans ce sens. Mais il n'est pas toujours facile de se reposer vraiment. Les soucis nous suivent et nous encombrent l'esprit quand ils ne nous plongent pas complètement dans la dépression. On a l'impression que tout dépend de nous et que si nous ne donnons pas notre maximum, alors les choses s'effondreront, s'effriteront entre nos mains et nous aurons perdu l'occasion. Mais si nous lisons le psaume 127, nous pouvons lire ceci dans les deux premiers versets du psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille, veille en vain, inutilement. En vain vous levez-vous de bon matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous ne pensiez pas que dormir servait à cela, n'est-ce pas? Ce psaume nous enseigne ou nous rappelle que le succès d'une entreprise, d'un projet, d'un effort, d'un travail, de quelque chose qui a été semé en terre quelque part, est donné aussi par Dieu. Bien sûr qu'il est vrai que cela dépend de nous, mais il dépend de Dieu aussi. Peut-être même pourrions-nous dire il dépend de Dieu d'abord et aussi de nous. Si vous achetez un sac de terreau et que vous plantez des choses, bien sûr qu'il y a une partie de la pousse, de la croissance de ces plantes qui dépendra de vous, mais aussi de choses qui sont en dehors de vos mains. Or, il nous arrive de nous priver de repos. Ou que l'on en soit privé parfois par son employeur, par des circonstances, comme si tout dépendait de nous, comme si toute la réussite de l'entreprise reposait sur des épaules humaines exclusivement. Mais la Bible nous rappelle qu'il faut d'abord nous appuyer sur Dieu. Et je souligne ce verset si touchant, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Autant. Vous vous souvenez que dans toute la traversée du désert qu'a connu le peuple d'Israël, Dieu avait fait exprès de les nourrir avec la manne qu'ils ne pouvaient pas conserver, qu'ils ne pouvaient pas stocker. Elle pourrissait si on essayait de la garder jusqu'au lendemain. Ils devaient comptait sur Dieu aussi pour se nourrir. Chaque matin, il se levait, allait récolter la manne qui était tombée avec la rosée. Ils avaient leur part à faire, mais ils devaient compter sur Dieu pour le lendemain. Ils ne pouvaient pas compter que sur eux-mêmes. Puissions-nous donc faire face à ce premier obstacle avec la foi, lorsque les soucis, les circonstances semblent nous noyer, nous engloutir. La privation du repos, effacer ces temps où le travail cesse et où l'on profite de ce que l'on a, ne nous fera pas vivre plus longtemps. Dieu a dit, qui d'entre vous, à force d'inquiétude, ne pourrait rajouter qu'une seule coudée à sa vie ? Mais ayant dit cela, le repos ne glorifie pas non plus la paresse. Celui qui ne fiche rien se détruit lui-même, dit la Bible. Mais celui qui ne sait pas se reposer, qui est à la poursuite de vent, se détruit tout autant, nous dit l'Ecclésiaste. Dans ce passage que nous avons lu à l'étude biblique, il est écrit « L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main plein de repos que deux poignées pleines de poursuite de vent. » On voit trois tableaux. L'insensé se croise les bras. Donc ses deux mains sont posées, l'une et l'autre au creux des bras, et elles ne fichent rien, elles sont vides. Celui qui poursuit le vent, lui, a deux mains pleines de peine et de vide. Celui que l'Ecclésiaste loue n'a qu'une main pleine de repos. Il sous-entend que l'autre est pleine de travail et de peine. Il est donc question de mesure. La vie n'est pas et ne sera jamais une sorte de vaste club med où l'on ne travaillera plus, ou jamais, à mon avis. Et l'éternité aussi sera un temps infini où l'on aura du travail et du repos. Du travail et du partage du fruit de notre travail. Cette juste mesure nous rappelle que le repos, dans le sens de la fin du travail, n'est pas un but en soi. On ne travaille pas pour pouvoir arriver au repos et c'est fini, on ne travaille plus. Pas dans la pensée biblique. D'ailleurs, toutes les personnes que je visite à la retraite, la plupart d'entre elles, je vois, ne sont pas en train de se tourner les pouces à rien fiche. Elles s'activent, s'impliquent, s'occupent. Certaines se laillent en disant que les journées sont longues parce qu'elles manquent justement de travail et qu'elles ont peut-être trop de repos. Le travail donne un sens à nos vies, nous donne une raison de nous lever le matin, mais il ne doit jamais devenir un esclavage. Si nous existons pour travailler d'abord, nous n'existons pas pour travailler uniquement. Le temps du repos existe à côté du temps du travail, mais ils doivent être mesurés, comptés l'un comme l'autre. Le temps du repos permet... répond au temps du travail. Et le temps du travail prépare le fruit qui sera savouré lors du temps de repos. Il faut construire et ajuster un dialogue entre ces deux temps de vie. Pour le moment, nous parlons du repos physique, du repos du corps. Mais il y a une autre forme de repos. Et nous pourrions dire, c'est le repos de l'âme. Et je vous lis ce texte tiré du prophète Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les sentiers, sur les chemins, et regardez, demandez, quels sont les anciens sentiers ? Quelle est la bonne voie ? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, non, nous n'y marcherons pas. Dans cet extrait de prophétie, Dieu est en procès contre son peuple, qui en se détournant de lui, s'est enfoncé dans la violence, l'injustice, les pratiques spirituelles horribles. Les chefs et les prêtres et les juges étaient complètement corrompus, ce qui engendrait évidemment de l'injustice, de l'exploitation des émigrés, des veuves, des orphelins, et une idolâtrie qui a été poussée jusqu'au point que certains offraient leurs enfants en sacrifice à des Baals. Mais Dieu, tout en sachant que cela ne servirait à rien, rappelle le peuple à la raison par la bouche du prophète. Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Retrouvez les anciens sentiers, ceux qui ont fait leurs preuves, ceux qui nous conduisent à bon port, ceux que nos ancêtres ont pratiqués. Et Dieu de leur promettre le repos pour leurs âmes. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà connu, goûté ce repos. Une sorte de certitude, de conviction profonde de tenir le bon cap. Comme si une mystérieuse boussole intérieure nous validait que le chemin du Seigneur est bien par là. Et cette conviction intérieure, cette assurance, génère en nous, elle irradie en nous une sorte de paix intérieure malgré les circonstances. Lorsque l'on est aligné intérieurement avec le Seigneur, nos actes, nos pensées, nos projets, il y a cette paix qui surpasse l'intelligence et qui irrigue notre vie intérieure et notre âme trouve le repos. Au milieu du travail, le repos. Au milieu des circonstances difficiles, le repos. Au milieu des épreuves, le repos. Mon âme est reposée, appuyée, confortée par l'Esprit de Dieu lui-même. Alors vous reconnaissez comme un écho dans les paroles de Jérémie qui parle du repos pour vos âmes. Vous vous dites, ah, ça ressemble à des propos de Jésus, ça. Et oui, Jésus a dit, vous connaissez le texte, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions sur vous, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Nous avons vu que les soucis peuvent nous tenir éloignés du vrai repos, que la paresse nous plonge dans un repos morbide, qu'il y a des choses encore qui nous tiennent bien loin du repos, et très souvent, c'est la culpabilité. Le sentiment de devoir rattraper, le sentiment de devoir compenser, de devoir prouver que l'on est à la hauteur, que l'on mérite, que l'on a le droit à être à cette place. Tout un, j'allais dire un joyeux mélange, mais c'est pas très joyeux, de sentiments divers qui motivent notre comportement et qui nous poussent dans une forme d'action, ou plutôt dans une forme d'activisme, faire pour faire. Et notre monde, notre civilisation, notre culture savent bien appuyer sur tous les leviers qui pourront nous plonger dans le faire. Et bien souvent, nous y perdons, non pas notre latin, mais nous y perdons notre repos. Nous le perdons de bien des façons, mais j'en cite deux qui me paraissent principales. La première peut-être en nous refusant le repos à nous-mêmes, en préférant agir, produire, faire, avancer, accumuler, prouver. Parfois aussi dans cet activisme, on se repose de manière très superficielle, avec une grande abondance de divertissement, de prêt à penser, de prêt à regarder, d'activités qui nous tiennent occupés, ou plutôt qui tiennent notre esprit occupé à autre chose. Tout cela nous conduit bien loin de la paix en Christ. À titre personnel, le repos est un vrai combat dans ma vie, une quête profonde qui m'échappe, je dois le dire, depuis de longues années. C'est un chemin riche et profond à trouver, où se mêlent la foi, la discipline, la créativité, les relations, la confiance, la sagesse, et pour lier tout cela à la communion avec le Christ. Car le Christ veut nous donner un repos indestructible en lui, un repos qui se fonde sur ce que il est, et ce sur que il a fait, et c'est ce qu'il fait encore. Pour cela, recevoir son repos comme une graine qui est plantée dans notre cœur et qui croît au fil du temps, pour prendre de plus en plus de place dans notre vie, Il faut, comme il l'a dit, venir à lui, revenir à lui, rester près de lui. Car c'est là que nous reconnaissons ou que nous connaissons qu'il nous aime tel que nous sommes. Oui, nous sommes paresseux parfois ou idolâtres. Oui, nous profitons des autres parfois ou nous comptons que sur nous-mêmes. Oui, nous essayons de prouver quelque chose sans cesse ou nous nous drapons dans nos prétentions. Oui, nous sommes pécheurs, méritant la colère et le jugement de Dieu. Mais comme des parents peuvent être en colère, tout en aimant, Dieu peut être en colère et continuer d'aimer. Et il nous a aimés, tant aimés en Jésus, qu'il a résolu de nous sauver. De nous sauver de nous-mêmes et de nous donner accès à son repos. Christ vous connaît. Il lit votre cœur, il lit vos pensées comme un livre ouvert devant lui. Il sonde jusqu'au fond de vos motivations, des pulsions, des lois auxquelles vous obéissez sans même vous en rendre compte. Il sait tout ce qui vous lie, vous anime, et il a choisi déjà de vous aimer intégralement et de vous attacher à lui intégralement et d'assumer en votre nom vos péchés, vos fautes, votre nature intégrale devant Dieu pour régler une fois pour toutes cette question. Quelle question ? Est-ce que vous méritez ? Est-ce que vous avez le droit ? Est-ce que vous êtes à votre place ? Est-ce que vous pouvez prendre la parole ? Est-ce que vous pouvez rêver, ambitionner ? Est-ce que vous avez le droit ? Est-ce que vous méritez ? Est-ce que vous avez assez fait ? En fait, maintenant, j'avais écrit la réponse est non, mais en fait, je m'en fous. La réponse, on sent. La question, c'est pas est-ce que vous avez assez fait ou pas. La réponse, c'est oui. Le résultat, c'est oui. Parce que en Jésus, puisque la vie de Jésus vous représente désormais, le résultat, ce sera oui. Prenez votre place. Oui, rêvez. Oui, vous êtes là où vous devez être. Oui, vous avez le droit. Parce que Jésus est votre représentant. Vous n'avez plus rien à prouver, à gagner, à mériter, à justifier. Vous êtes accepté sans plus rien de tout cela. Aimé sans condition. Alors, je trouve là le repos pour mon âme. Le pardon de Christ m'offre d'une certaine façon une page blanche chaque jour, à chaque aube nouvelle que Dieu fait. Même si hier je ne suis pas parvenu à rester dans le repos de Dieu, même si hier je n'ai même pas désiré rentrer dans ce repos de la journée, aujourd'hui, je commence aujourd'hui, parce que tout m'est donné par grâce en Jésus-Christ. Me tenir près du Christ est une chose pour fonder mon repos. Une deuxième chose pour fonder mon repos, c'est de porter son joug, de recevoir ses instructions, de devenir son serviteur, de travailler pour lui, de placer au-dessus de toute autre motivation le travail pour le Seigneur. Alors là, parfois nous les évangéliques, on se plante complètement. On dit, travailler pour le Seigneur, bon alors, c'est lire la Bible, c'est prier, c'est aller évangéliser, devenir missionnaire, ou donner des sous pour la mission, ou servir à l'église, ou... Non. Travaillez pour le Seigneur quand vous débarrassez la table. Travaillez pour le Seigneur quand vous faites les courses pour la famille. Travaillez pour le Seigneur quand vous tondez la pelouse. Travaillez pour le Seigneur quand vous allez chercher le courrier ou sortir les poubelles. Travaillez pour le Seigneur quand vous passez un coup de chiffon sur les vitres, quand vous allez chercher les enfants à l'école, quand vous partez au travail le matin, quand vous embrassez vos enfants, vos neveux, vos petits-enfants le soir, quand vous préparez un cadeau pour quelqu'un, pour fêter son anniversaire, travaillez pour le Seigneur lorsque vous visitez un ami, lorsque vous accueillez un ami, travaillez pour le Seigneur lorsque vous préparez pour vous-même un bon repas ce soir, parce que vous vivez seul. Travaillez pour vous, le Seigneur, lorsque vous prenez un rendez-vous médical pour prendre soin du corps que Dieu vous a donné. Tout ça, nous le faisons pour le Seigneur. En vrai, vous ne pouvez pas apporter un café à Jésus. Vous ne pouvez pas aller lui chercher son courrier. Vous ne pouvez pas nettoyer son jardin ou débarrasser les gouttières des feuilles pour Jésus. Vous ne pouvez pas servir Jésus. En fait, il n'a pas besoin de vous. Mais il est votre Seigneur et votre Roi. Et donc, travailler pour le Seigneur, c'est pas faire des choses pour lui. C'est assumer que je suis son serviteur et que je fais des choses en son nom. C'est une étrange soumission de ma vie à Jésus qui change le sens de mes actions, qui change ma relation à ce que je suis et à ce que je fais. Subitement, m'asseoir avec William, mon fils, pour faire 20 minutes de Lego avec lui, si c'est pour le Seigneur, ça change la coloration de ce que je fais. Il n'y a pas, oui, mais je pourrais travailler ma prédication ou faire un truc comme ça pour le Seigneur. Et ça, c'est spirituel, c'est biblique. Donc là, ça compte vraiment. Jouer au Lego avec William, ce n'est pas très spirituel. Mais qui t'a donné cet enfant à élever ? Qui a conçu ce monde de telle sorte que cet enfant-là, en fait, pour grandir, faire grandir son cœur, ses émotions, il a besoin de s'attacher à un adulte en qui il peut avoir confiance, et un adulte qui lui manifeste une affection, qui reflète l'affection que Dieu a pour lui. Qui a voulu les choses comme ça ? C'est Dieu. Le premier reflet de cet amour inconditionnel de Dieu dans nos vies, ça vient de qui ? Des parents ? Qui c'est qui a eu cette idée-là ? C'est Dieu. Donc si je me pose avec William pour jouer 20 minutes au Lego avec lui, je suis en train de faire quoi ? De servir le Seigneur. D'accomplir la mission pour laquelle il m'a créé et pour laquelle il m'a consacré en me donnant Camille pour épouse et en faisant venir le petit William dans ma famille. Tout à la fois devient important car c'est pour le Seigneur. Hein ? Et en même temps, tout devient moins personnel. C'est plus la question trop de moi. Et ça favorise de prendre une petite distance par rapport aux choses. Et ça favorise que les éléments de ma vie, le travail, le loisir, la musique, l'argent, la nourriture, les enfants, les amis, les sorties, ce que tu veux, vont être réorganisés les uns par rapport aux autres. Chacun retrouvant sa juste place. Comme l'Esprit de Dieu qui organise le monde avec sagesse et beauté dans la Genèse. Vous savez, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, fait apparaître le sec, la nuit, le jour. L'Esprit, il distingue les choses, il les range en fait. Hein. Comme mon bureau qui a un vrai foutoir, eh ben, en fait, quand l'Esprit passe, chez moi ou chez Camille, ben, on range et subitement il y a le coin des livres, il y a le coin des crayons, il y a le coin des... Et tout est distingué. Tout était là déjà avant, hein. On n'a pas rajouté ou enlevé des choses. C'est juste ce qui est là, on l'a ordonné de telle sorte que ça devient beau et utile. Et quelque part, en soumettant ma vie au Seigneur, il y a cet ordre qui vient parce que les choses retrouvent leur place. Et ma relation aux choses et aux personnes et aux gens retrouve leur place. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le repos. Qui vient. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. On se repose mieux dans le canapé du salon quand tout est rangé que quand tout est en bazar. J'en entends qui disent bien sûr. On se repose mieux quand tout est rangé que quand tout est en bazar. C'est étrange, hein ? Mais c'est parce que c'est aussi une question sur l'esprit. Que ma vie intérieure soit rangée avec sagesse et beauté, pour la gloire de Dieu et pour la paix en moi, la paix et le repos en moi. Alors je nous encourage cet été à trouver le repos en Christ, notre bon libérateur, notre bon maître, notre bon berger. Que l'Esprit de Dieu nous bénisse et surtout nous attire vers le véritable repos. Amen.